Chapitre 3. Le problème. Je confesse que ces mots me causèrent un frisson. Il y avait dans la voix du docteur Mortimer un tremblement qui prouvait que son propre récit l'avait profondément ému. Penché en avant, Holmes l'écoutait avec dans les yeux cette lueur qui décèle toujours chez lui un vif intérêt. « Vous avez vu cela ? » interrogea-t-il. « Aussi nettement que je vous vois. Et vous n'en avez rien dit. Pourquoi en aurais-je parlé ? Comment expliquez-vous que vous soyez le seul à avoir remarqué ces empreintes ? Elles commençaient seulement à une vingtaine de mètres du cadavre. Personne n'y avait fait attention. Si je n'avais pas connu la légende, il est probable que j'aurais agi comme tout le monde. Y a-t-il beaucoup de chiens de berger sur la lande ? Beaucoup, mais celui-là n'était pas un chien de berger. Vous dites que vous le jugez de grande taille. Énorme. Et qu'il n'avait pas approché le cadavre, non. Quelle nuit faisait-il ? Humide et froide. Pleuvait-il ? Non. Décrivez-moi l'allée des ifs. Elle est formée par une double rangée de vieux ifs, hauts de 12 pieds et absolument impénétrables. On se promène sur la partie comprise entre les arbustes, large de 8 pieds. Entre les ifs et cette partie sablée sans doute, n'y a-t-il rien ? Si, il existe de chaque côté une bande de gazon d'environ 6 pieds. La bordure d'if, m'avez-vous dit, est coupée par une porte, oui, qui donne accès sur la lande. Et il n'y a pas d'autre ouverture ? Aucune. De telle sorte qu'on arrive à l'allée des ifs que par la maison, ou alors par cette porte. On peut également s'y rendre par une serre construite à l'extrémité de l'allée. Sir Charles a-t-il poussé sa promenade jusque-là ? Non. Non, non, 50 mètres le séparaient encore de cette serre. Maintenant, voudriez-vous me dire, docteur Mortimer, et ce détail a son importance, si les empreintes que vous avez relevées se trouvaient sur le sable de l'allée ou alors sur le gazon ? Je n'ai pu distinguer aucune empreinte sur le gazon. Existait-elle seulement sur le même côté que la porte ? Oui, sur le bord de l'allée sablée, du même côté que la porte. Bien, vous m'intéressez excessivement. Autre chose, cette porte était-elle fermée ?
Fermée et cadenassée, monsieur Holmes.
Et quelle est sa hauteur ?
4 pieds.
Alors quelqu'un aurait pu la franchir.
Ah oui, facilement.
Bien. Près de la porte, y avait-il des marques particulières ?
Non.
Ah. Et a-t-on fait des recherches de ce côté ?
Personne autre que moi.
Et vous n'avez rien découvert ?
Sir Charles avait dû piétiner sur place. Évidemment, il était resté en cet endroit 5 ou 10 minutes.
Oh ! Et comment le savez-vous ?
Parce que 2 fois, les cendres de son cigare se sont détachées.
Très bien déduit, approuva Holmes. Watson, reprit-il, voici un collègue selon notre cœur. Mais ces marques ?
Le piétinement les avait rendues confuses. En dehors de l'empreinte des pas de Sir Charles, il m'a été impossible d'en distinguer d'autres.
De sa main, Sherlock Holmes frappa son genou dans un geste d'impatience.
« Encore si j'avais été là !» s'écria-t-il. « Le cas m'apparaît d'un intérêt palpitant. Cette page de gravier sur laquelle j'aurais pu lire tant de choses, la pluie et le sabot des paysans curieux l'auront faite indéchiffrable. Ah, docteur Mortimer, pourquoi ne m'avez-vous pas appelé et vous êtes bien coupable ?»
Je ne pouvais pas vous appeler, monsieur Holmes, sans révéler tous ces faits, et je vous ai déjà donné les raisons pour lesquelles je désirais garder le silence.
Bien, pourquoi cette hésitation ?
Dans certains domaines, Le détective le plus expérimenté, le plus subtil, demeure impuissant.
Insinuez-vous que ces faits appartiennent au domaine surnaturel ?
Je ne le dis pas positivement, non.
Mais vous le pensez, évidemment.
Depuis le drame, monsieur Holmes, on m'a raconté divers incidents qu'il est malaisé de classer parmi les événements naturels.
Ah, par exemple.
J'ai appris qu'avant la terrible nuit, plusieurs personnes ont vu sur la lande un animal dont le signalement se rapportait à celui du démon des Baskerville. L'animal ne rentre dans aucune espèce cataloguée. On convient qu'il avait un aspect épouvantable, fantastique, spectral. J'ai questionné ces gens, un paysan obtus, un maréchal ferrant et un fermier. Aucun n'a varié sur le portrait de la sinistre apparition. Elle incarnait, bien exactement, le chien vomi par l'enfer, d'après la légende. La terreur règne dans le district en souveraine maîtresse, et il pourrait se vanter d'être téméraire celui qui s'aventurerait la nuit sur la lande.
Et vous, un homme de science, vous admettez une manifestation surnaturelle ?
Je ne sais que croire.
Holmes haussa les épaules.
Jusqu'ici, dit-il, j'ai borné mes investigations aux choses de ce monde. Dans la limite de mes faibles moyens, j'ai combattu le mal. Mais ce serait une tâche bien ambitieuse que de s'attaquer au démon lui-même. Cependant, il vous faut bien admettre la matérialité des empreintes.
Le chien originel était assez matériel pour déchiqueter le cou d'un homme, et néanmoins, il était bien d'essence infernale.
Je vois que vous avez passé aux partisans du surnaturel. Maintenant, répondez encore à ceci. Puisque vous pensez ainsi, pourquoi êtes-vous venu me consulter ? Vous me demandez en même temps de ne pas rechercher les causes de la mort de Sir Charles Baskerville, et vous me priez de m'occuper de ces recherches.
Je ne vous en ai pas prié.
Alors en quoi puis-je vous aider ?
En m'indiquant l'attitude que je dois garder vis-à-vis de Sir Henry Baskerville, qui arrive à Waterloo Station.
Ici, le docteur Mortimer tira sa montre.
Dans 1h15.
Est-ce lui qui hérite ?
Oui. À la mort de Sir Charles, nous avons fait une enquête sur ce jeune homme et nous avons appris qu'il se livrait à l'agriculture au Canada. Les renseignements fournis sur son compte sont excellents à tous égards. Je ne parle pas à cette heure comme le médecin, mais comme l'exécuteur testamentaire de Sir Charles Baskerville.
Et il n'y a pas d'autres prétendants à la fortune du défunt, je présume ?
Non, pas d'autres. Le seul parent dont nous ayons pu retrouver la trace se nomme, ou mieux, se nommait Roger Baskerville. Il était le troisième frère de Sir Charles. Le second frère, mort jeune, n'a eu qu'un fils, Henri. On considérait le troisième frère, Roger, comme la brebis galeuse de la famille. Il perpétuait l'ancien type des Baskerville et continuait, m'a-t-on affirmé, les errements du vieil Hugo. Le séjour de l'Angleterre lui paraissant malsain, il s'expatria dans l'Amérique centrale où il mourut de la fièvre jaune en 1876. Henri est donc le dernier des Baskerville. Dans 1h05, je le rencontrerai à Waterloo Station. Il m'a télégraphié de Southampton qu'il arriverait ce matin. Que dois-je faire, monsieur Holmes ?
Et pourquoi n'irait-il pas dans la demeure de ses ancêtres ?
Cela semble tout naturel, n'est-ce pas ? Et cependant, il faut se souvenir que les Baskerville qui ont habité le château ont tous péri de mort violente. Oh, j'ai la conviction que si Sir Charles avait pu me parler avant son décès, il m'aurait instamment recommandé de ne pas y conduire le dernier représentant de sa race et l'héritier de sa grande fortune. D'autre part, il est incontestable que la prospérité de ce misérable pays dépend absolument de la présence de Sir Henry. Tout le bien commencé par Sir Charles sera perdu si le château reste désert. Je suis venu vous demander un avis, monsieur Holmes, parce que je crains de me laisser entraîner par mon intérêt trop évident l'espèce.
Holmes resta songeur pendant un moment. Puis il dit
En d'autres termes, voici quelle est votre opinion. Vous estimez qu'une influence diabolique rend le séjour de Dartmoor insalubre aux Baskerville. Ai-je bien exprimé votre pensée? Ne suis-je pas fondé à le prétendre? Oh, j'en conviens. Mais si votre théorie sur le surnaturel est exacte, notre jeune homme peut aussi bien en subir les effets à Londres que dans le Devonshire. J'ai peine à admettre un diable dont les pouvoirs s'arrêteraient aux limites d'une paroisse, tout comme ceux d'un conseil de fabrique.
Vous traiteriez probablement la question plus sérieusement, monsieur Holmes, si vous viviez en contact permanent avec ces choses-là. Ainsi, d'après vous, ce jeune homme ne courrait pas plus de danger dans le Devonshire qu'à Londres. Il arrivera dans 50 minutes. Que me conseillez-vous de faire ?
« Bien, je vous conseille de prendre un cab, d'appeler votre caniche qui gratte à ma porte d'entrée et d'aller au-devant de Sir Henry Baskerville à Waterloo Station. »«
Et ensuite ?»«
Ensuite, bien, vous ne lui direz rien jusqu'à ce que j'aie réfléchi. »«
Combien de temps comptez-vous réfléchir ?»«
24 heures. » Docteur Mortimer, je vous serai très reconnaissant de revenir me voir ici demain matin à 10 heures. Pour mes dispositions futures, j'aurai besoin que vous ameniez avec vous Sir Henry.
Comptez-y, monsieur Holmes.
Le docteur Mortimer griffonna le rendez-vous sur sa manchette et sortit. Holmes l'arrêta sur le haut de l'escalier.
Encore une question, docteur Mortimer. Vous m'avez dit qu'avant la mort de Sir Charles Baskerville, plusieurs personnes avaient aperçu sur la lande l'étrange apparition.
Oui, 3 personnes.
Et l'a-t-on revue après ?
Je n'en ai plus entendu parler. Merci et au revoir.
Holmes retourna s'asseoir avec cet air de satisfaction interne qui signifiait qu'il entrevoyait une tâche agréable.
« Sortez-vous, Watson ?»
me demanda-t-il.
« Oui, à moins que je ne vous sois de quelque utilité. »«
Non, mon cher ami. Je ne réclame votre concours qu'au moment d'agir. Savez-vous que cette affaire est superbe, unique en son genre à certains points de vue. Lorsque vous passerez devant la boutique de Bradley, priez le don de m'envoyer une livre de son tabac le plus fort. » Vous serez bien aimable de me laisser seul jusqu'à ce soir. Nous nous communiquerons alors nos impressions sur le très intéressant problème que nous a soumis ce matin le docteur Mortimer.
Holmes aimait à s'isoler ainsi pendant les heures de contention mentale au cours desquelles il pesait le pour et le contre des choses. Il édifiait alors des théories contradictoires, les discuter et fixer son esprit sur les points essentiels. Je passai mon après-midi au cercle et ne repris que le soir le chemin de Baker Street. Il était près de 9 heures lorsque je me retrouvai assis dans le salon de Sherlock Holmes. En ouvrant la porte, ma première impression fut qu'il y avait le feu à la maison. La fumée obscurcissait tellement la pièce qu'on voyait à peine la flamme de la lampe placée sur la table. Je fis quelques pas dans le salon et mes craintes s'apaisèrent aussitôt. Ce n'était que la fumée produite par un tabac grossier. Elle me saisit à la gorge et me fit tousser. Enfin, à travers cet épais nuage, je finis par découvrir Holmes, enveloppé dans sa robe de chambre, enfoui dans un large fauteuil, et tenant entre ses dents le tuyau d'une pipe en terre très culottée. Plusieurs rouleaux de papier jonchaient le tapis autour de lui.
« Pris froid, Watson ? » dit-il.
« Non, c'est cette atmosphère empoisonnée.
Elle doit être en effet un peu épaisse. »«
Épaisse ? Elle est irrespirable, oui. »«
Eh bien, ouvrez la fenêtre. Je parie que vous n'avez pas bougé de votre cercle. »
« Mon cher Holmes, certainement, mais comment... »
Sherlock Holmes se moqua de mon ahurissement.
« Vous êtes d'une naïveté délicieuse, » fit-il. « Cela me réjouit d'exercer à vos dépens les modestes dons que je possède. Voyons,
Un monsieur auquel on ne connaît pas d'amis intimes sort par un temps pluvieux, boueux. Il revient le soir immaculé, le chapeau et les bottines aussi luisants que le matin. Qu'en concluriez-vous? Qu'il a été cloué quelque part toute la journée, n'est-ce pas évident?
En effet, oui, c'est plutôt évident.
Il y a de par le monde une foule de choses évidentes que personne n'observe. Et moi? Où croyez-vous que je sois allé?
Vous êtes également resté cloué ici.
Erreur! Mon cher Watson, j'ai visité le Devonshire.
Par la pensée?
Oui. Oui, mon corps n'a pas quitté ce fauteuil, et a consommé en l'absence de ma pensée, j'ai le regret de le constater, la valeur de 2 grands bols de café et une incroyable quantité de tabac. Après votre départ, j'ai envoyé chercher à Stamford la carte officielle de la lande Dartmoor, et mon esprit l'a parcourue en tous sens. À cette heure, je me flatte de pouvoir y retrouver mon chemin sans guide.
Cette carte est donc établie à une grande échelle?
Oh oui, Watson, très grande.
Holmes en déplia une partie qu'il tint ouverte sur ses genoux.
Voici le district qui nous intéresse, fit-il. Là, au centre, vous apercevez Baskerville Hall.
Après cette ceinture de bois?
Oui. Oui, bien que l'allée des ifs ne soit désignée par aucun nom, je jurerai qu'elle s'étend le long de cette ligne, avec la lande à droite. Ici, cet amas de maisons représente le hameau de Grimpen, où notre ami, le docteur Mortimer, a installé son quartier général. Constatez que dans un rayon de 6 kilomètres, il n'y a que de rares habitations. Voici encore l'After Hall, dont il est question dans le vieux grimoire. La construction indiquée plus loin doit abriter le naturaliste, Stapleton, si je me souviens bien de son nom. Enfin, j'aperçois 2 fermes, Light Tor et Fulbear. À 14 miles de là se dresse la prison de Princetown. Autour et entre ces quelques maisons se déroule la lande morne, désolée. C'est là que se passa le drame, et c'est là que nous essayerons de le reconstituer.
Et l'endroit est sauvage?
Oh oui, plutôt. Si le diable désirait se mêler des affaires des hommes...
Ainsi donc, vous aussi, vous penchez vers une intervention surnaturelle?
Le diable ne peut-il pas se servir d'agent en chair et en os? Dès le début, 2 questions se dressent devant nous. La première, y a-t-il eu crime? La seconde, quel est ce crime et comment l'a-t-on commis? Si les conjectures du docteur Mortimer sont fondées, et si nous nous trouvons en présence de forces échappant aux lois ordinaires de la nature, certes, le mieux est de ne pas pousser plus loin nos investigations. Mais nous devons épuiser toutes les autres hypothèses avant de nous arrêter à celle-ci. Nous ferions bien de fermer cette fenêtre, qu'en pensez-vous? Je reconnais que je suis bizarre, mais il me semble qu'une concentration d'atmosphère favorise toujours une concentration de pensée. Je ne vais pas jusqu'à m'enfermer dans une boîte pour réfléchir. Ce serait cependant la conséquence logique de mes convictions. Et vous, de votre côté, avez-vous creusé l'affaire?
Ah oui, beaucoup, pendant le courant de la journée.
Et quelle est votre opinion?
Je me déclare fort embarrassé.
Cette affaire ne ressemble pas en effet à toutes les autres. Elle en diffère par plusieurs points. Ce changement dans les empreintes de pas, par exemple, comment l'expliquez-vous?
Mortimer dit que Sir Charles Baskerville a parcouru une partie de l'allée sur la pointe des pieds.
Il n'a fait que répéter la déclaration de quelque imbécile au cours de l'enquête. Pourquoi se promènerait-on dans une allée sur la pointe des pieds?
Bon ben alors.
Il courait, Watson. Sir Charles courait désespérément. Il courait pour se sauver, jusqu'au moment où la rupture d'un anévrisme l'a jeté la face contre terre.
Mais pourquoi fuyait-il?
Ah!
l'agile problème. Des indices me portent à croire qu'il était déjà terrassé par la peur avant même de commencer à courir.
Sur quelle preuve appuyez-vous ce raisonnement ?
J'admets que la cause de sa peur se trouvait sur la lande. S'il en était ainsi, et cela paraît probable, seul un homme affolé aurait couru en tournant le dos à sa maison au lieu de se diriger vers elle. Si l'on tient pour véridique le récit du bohémien, Sir Charles courait en appelant au secours dans la direction où il était le plus improbable qu'il lui en arrivât. Et puis, qu'attendait-il cette nuit-là ? Pourquoi attendait-il dans l'allée des Ifs plutôt qu'au château ?
Et vous croyez qu'il attendait quelqu'un ?
Le docteur Mortimer nous a montré un Sir Charles Baskerville vieux et infirme. Nous pouvons accepter les promenades vespérales, mais ce soir-là, le sol était humide et la nuit était froide. Est-il admissible qu'il se soit arrêté pendant 5 ou 10 minutes, ainsi que le docteur Mortimer, avec une sagacité que je ne lui soupçonnais pas, l'a déduit très logiquement de la chute des cendres de son cigare.
Mais puisqu'il sortait tous les soirs,
il ne me paraît pas très vraisemblable qu'il s'attardât tous les soirs à la porte donnant sur la lande. Toutes les dépositions, au contraire, indiquent qu'il évitait cette lande. Or, cette nuit-là, il s'était posté à cet endroit. Il partait le lendemain pour Londres. La chose prend corps, Watson. Elle devient cohérente. Voulez-vous me passer mon violon ? Ne pensons plus à cette affaire pour le moment et attendons la visite du docteur Mortimer et de Sir Henry Baskerville.